là pour parler Bibliobox, Piratebox, Librarybox. Oui, c'est bien ça. D'accord. Bon, c'est ma troisième conférence, donc je suis peut-être un peu moins clair que au début. Donc l'idée derrière, c'est de créer un réseau Wi-Fi personnel avec derrière un accès à des ressources. Donc si vous avez un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, si vous connectez sur la borne si vous connectez sur la canopée box 19 là, vous allez tomber sur ce boîtier là. Donc je vais le faire. Donc voilà, ça fonctionne dans un navigateur. Ça marche à la fois sur les tablettes. C'est actuellement la mise en page de la Bibliobox et du Responsive Design. Et vous rajoutez des ressources et vous pouvez organiser donc les différents onglets comme vous l'entendez. Alors comment ça marche? Donc la première chose que vous faites, c'est dépenser une vingtaine d'euros pour acheter
le MR 3020. Dedans, vous avez donc le petit boîtier, vous avez le connecteur USB, l'adaptateur pour une prise et un petit câble RJ45 pour configurer tout. Le firmware à l'intérieur est du livre, donc vous pouvez le retirer, vous en mettez un autre, et puis après on va rajouter une petite surcouche qui va permettre d'avoir cette interface graphique. Et l'intérêt de faire ça, donc moi je suis formateur et enseignant sur la Corrèze, et en Corrèze, peut-être que vous le savez, il y a beaucoup d'iPads, il faut pas le dire. D'accord, beaucoup d'iPads et iPads et Mac, c'est super, ça marche tout seul. Ouais. Sauf qu'il faut avoir du Wi-Fi, et ça c'est valable pour toutes les tablettes, il faut du Wi-Fi, il faut du débit. Et lorsque vous êtes dans un établissement avec 400 élèves, ça va très vite être saturé. Donc les profs qui veulent mettre des ressources à la disposition, leurs cours, à la disposition des vidéos, à la disposition des enseignants, ils viennent me voir et me disent « Ouais, c'est bien beau, mais comment on fait ?»
C'est bien beau, mais comment on fait? Donc je me suis penché sur ce problème, d'autant plus que les profs de gym, étant dans les gymnases, ayant une tablette, voulant l'utiliser pour des captures vidéo, etc., ils auraient bien voulu avoir un système aussi pour mettre des vidéos à la disposition des élèves. Sauf qu'il n'y a pas de prise de connexion dans les gymnases. Donc je me suis penché sur la Piratebox. Au début, on avait fait des Piratebox. Sauf que les dernières versions de la Piratebox sont moins scolaires, on va dire, que ce que fait la Bibliobox. L'idée derrière, donc, c'est de... Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble. Donc, il y a un tutoriel que j'ai mis en place. Alors, que ça soit clair, hein, l'idée, c'est pas de remplacer un serveur pédagogique ou un ENT, si tout ça fonctionne. Hein. L'idée, c'est vraiment, au cas par cas, d'utiliser une solution qui permet de créer un réseau Wi-Fi local et de mettre à disposition des ressources. Mais c'est aussi très intéressant, par exemple, dans une visite de musée ou une sortie sur le terrain. Donc, le prof va pouvoir préparer son cours, le mettre sur la clé USB depuis son ordinateur fixe ou portable, sans se prendre la tête pour savoir comment je vais transférer ça sur une tablette. Ensuite, il va sur le terrain, il allume le boîtier. D'accord. Là, j'utilise une batterie que j'ai achetée, une quarantaine d'euros, qui va me durer une douzaine d'heures. Elle tourne en permanence. Ça peut démarrer dans le bus, sur le trajet, parce que généralement, les élèves, il faut les tenir dans le bus. Hein. Je ne sais pas s'il y a des profs, là. Non. Oh. Si, il y en a. Donc, il faut les tenir. Donc, ça permet donc de lancer la bibliobox déjà dans le bus. Et ensuite, les élèves se connectent dessus avec les smartphones ou les tablettes et peuvent déjà récupérer ce qui va se passer ou le déroulé du cours sur ce boîtier. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux soit l'éteindre ou la laisser tourner, la mettre dans mon sac à dos et me déplacer. Ça fonctionne très bien, je peux mettre donc des sites web sur ce type d'outils. Je peux mettre des vidéos, c'est très pratique, mais je peux aussi mettre, c'est pour ça aussi que ça s'appelle une bibliobox, puisqu'au début c'est un projet qui a été financé c'est aux États-Unis, ça s'appelle Library Box, et c'est très utile dans les bibliothèques, les médiathèques, puisque je vais pouvoir mettre sur cette bibliothèque des tas de manuels ou de livres tombés dans le domaine public. Il y a des cybercafés aussi qui l'utilisent parce que je peux mettre les classiques dessus, les gens boivent un café, se connectent sur le boîtier et peuvent récupérer au format EPUB les différents livres. Voilà. Alors comment le bricoler ? Alors pour ceux qui sont pas bricoleurs, je suppose que vous êtes tous là parce que vous voulez bricoler. Mais il existe aussi des versions de routeurs Wi-Fi classiques, comme le Netgear WNR 2200, qui permet de brancher des clés USB à l'arrière et on accède aux ressources aussi. Le seul hic de ce genre de produit, c'est que il doit absolument fonctionner sur du 220 volts. Et puis c'est un truc assez encombrant. Je vais vous le montrer un peu. Là en bas, voilà, c'est ce genre d'appareil. Alors il y a des collègues qui l'utilisent, hein. Ça marche très bien, mais c'est pas pratique. D'abord c'est gros, hein. c'est à peu près la taille de la tablette en beaucoup plus épais. C'est tout prêt et je peux pas personnaliser l'interface. Or c'est quand même intéressant de pouvoir mettre le niveau de classe ou le type de ressources, comme je l'ai fait moi là, sur mon interface à moi. La première étape, c'est de récupérer tout le matériel et d'avoir une clé USB. Une clé USB formatée en FAT32. Alors, vous n'êtes pas obligé de noter tout ça. Il y a le site, vous allez sur Scénari. Je vous donne l'adresse. Là, si vous allez sur scénari.crdp-limousin.fr, vous avez tous nos modules de formation et dont un tutoriel pour bricoler le boîtier. On a actuellement à peu près une soixantaine de boîtiers qui circulent en Corrèze dans les, enfin une soixantaine que je connais parce qu'après il y a aussi les collègues qui les bricolent eux-mêmes. Alors, ce qui est important, c'est d'abord lire le tutoriel. Vous lisez le tutoriel de A à Z et si vraiment ça ne vous parle pas, surtout ne vous lancez pas dedans, parce que ce genre d'appareil, si vous faites une mauvaise manip au moment où vous changez le firmware, vous pouvez briquer le boîtier. Et généralement après c'est perdu. Bon après il faut bidouiller, il faut ouvrir le boîtier, il faut avoir du tas de matériel pour le récupérer. Et pour moi c'est une perte de temps. Bon, grosso modo, j'en ai fait une trentaine. Il y en a un qui a été briqué. C'était le premier. Hein, parce que ma femme m'a appelé pour aller manger et puis j'ai débranché tout. Surtout pas faire ça. Faut surtout pas faire ça. Vous laissez faire. Et puis au début, c'était très compliqué quand même. Je trouve qu'il fallait rentrer avec le terminal beaucoup plus que maintenant. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger le firmware OpenVRT. Donc le lien, il est là. Hein. Donc c'est un firmware qui est libre. Et puis ensuite, vous téléchargez le paquet Library Box. C'est un zip que vous trouvez sur le site de Library Box. Ensuite, vous le dézippez. Et lorsque vous le dézippez, donc vous obtenez, vous dézippez le install Library Box et vous obtenez un install. Vous placez donc l'install, le dossier install et le OpenWRT sur une clé USB, formatée en FAT32, et je le répète, hein, formatée en FAT32, ne mettez pas un format, propre à Ubuntu ou quoi que ce soit. Hein. Pourquoi ? Parce que le FAT32 va être lisible par tous les ordi par la suite. Quoi. Donc c'est surtout ça. Vous placez ça dessus. continue. Donc, voilà, c'est... Alors, il y a quand même cette semaine un collègue qui m'a appelé. Ça marchait pas. Ah oui, il avait mis le zip, l'install library box zip sur la clé USB, donc ça ne peut pas marcher. Donc le truc il tourne durant une demi-heure, et il y a toujours rien qui se passe. Hein. Donc je le répète, hein, suivez le tuto et tout se passe normalement. Et surtout prenez quelques bières. Vous branchez donc la clé USB sur votre boîtier, et sur le boîtier il y a une chose importante, c'est que vous avez ce boîtier, il est prévu au départ pour brancher une clé 3G. Quand vous l'achetez, si vous avez une clé 3G, vous le branchez sur le port USB et vous créez un réseau local où les gens peuvent donc accéder pour des réunions. C'est pratique, hein. En 3G on peut se connecter et avoir internet. Donc l'idée c'est d'enlever cette capacité de 3G et de faire un port USB qui reconnaisse une clé USB standard avec des ressources dessus. Et pour ça il y a un petit bouton là. On le voit pas trop, c'est sur l'image, ça se verra mieux. Vous voyez là, il faut le mettre sur WISP. Important ça. Si vous le faites pas, ça va pas le faire. Ok. Et vous déconnectez surtout votre connexion Wi-Fi de l'ordinateur et vous branchez ensuite le câble RJ45 à votre ordi, d'accord, pour que les deux soient reliés. Ok. Parce que l'idée c'est de faire passer le firmware depuis votre ordinateur sur l'interface et remplacer le firmware qui est déjà sur le boîtier. Alors, donc en fait, ce que je vais faire, c'est dans un navigateur, je vais saisir 192.168.0.254, qui est l'interface du TP-Link lorsque vous l'achetez. D'accord ? Je vais tomber sur une page web, ok ? Et dans cette page web, je vais ensuite rentrer le nouveau firmware pour le remplacer. Et ça dure à peu près une dizaine de minutes. D'accord ? Alors, c'est une interface web. Vous attendez que ça soit fini, ça va redémarrer, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une page sur votre navigateur avec une erreur de connexion. C'est normal. Voilà, ça c'est donc l'interface du TP-Link. Lorsque vous l'achetez, donc là vous allez dans System Tools, d'accord, et vous allez modifier le firmware. D'accord, ça c'est important. Surtout ne paniquez pas lorsque vous n'avez plus cette interface web. C'est normal puisque vous venez d'enlever le firmware pour en mettre un autre. D'accord, et donc ça ne correspond plus à cette adresse-là. Est-ce que vous suivez là au niveau... ça vous parle ou pas ? Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Là, c'est normal. Bon. Alors après, au niveau du... Vous laissez tourner. Donc après, ça va tourner. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et surtout, vous ne le débranchez pas. Une fois que c'est terminé, d'accord, vous allez voir une borne Wi-Fi, d'accord, vous allez prendre une tablette ou vous allez activer le Wi-Fi. Et à un moment donné, lorsque tous les voyants ont fini de faire bling bling où il n'y a plus rien qui se passe, c'est que c'est bon, d'accord. Alors, je vous le dis, allez boire quelque chose, allez manger, laissez-le tourner, mais restez pas à côté parce qu'au bout de 10 minutes, d'un seul coup, il y a des lumières, toutes les lumières sont allumées. Et puis il y a rien qui se passe, vous allez vous dire c'est fini, et puis tout s'éteint, tout redémarre, hein, donc laissez bien tourner. Et la durée dépend entièrement de votre clé USB. Hein, si vous avez une vieille clé USB, ça va être plus long qu'une clé, voilà. Bon, c'est des petits détails. Okay. Ensuite, ce qui a changé, c'est que l'interface maintenant, donc je me connecte en Telnet, donc c'est pour ça que j'ai désactivé le Wi-Fi, vous redésactivez le Wi-Fi. Vous allez être connecté en RJ45 entre le boîtier et votre ordinateur. Vous saisissez donc l'adresse Telnet 192.168.1.1. Ok, ça va être votre adresse définitive du boîtier tout le temps. D'accord, ne la changez pas. parce que ça va vous créer des problèmes. C'est cette adresse-là, donc ça correspond à votre boîtier, ceux qui sont chez Orange, c'est la même chose, sauf que comme c'est pas assez indépendant, ça ne pose aucun problème. Donc la seule chose que vous avez à donner aux gens, c'est cette adresse-là pour se connecter sur votre boîtier. Ça va, dans un navigateur. Alors vérifiez aussi, parce que ça... Bonjour. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que lorsque ce sont des gens qui sont pas très à l'aise avec l'internet, ils mettent ça dans le, ils mettent pas l'adresse en haut, hein, dans le navigateur, ils mettent dans Google, hein, vous voyez, dans le moteur de recherche. Bon. Donc après, vous allez tomber sur cette interface là. Ok, donc ils ont de l'humour, hein, quand même. Hein, OpenVRT, donc vous allez préparer des ingrédients pour vous faire une boisson. Et puis en fait, ça c'est une évolution qui est importante depuis un an, c'est que les paramétrages, mots de passe, etc., eh bien il y a un fichier qui est tout prêt. Donc en fait, lorsque vous êtes sur route, vous tapez box underscore init underscore setup point sh, et vous allez pouvoir paramétrer le password, la date et la configuration FTP si vous voulez faire du téléversement. Alors le téléversement, vous êtes obligé d'utiliser, si vous voulez utiliser des iPads, vous êtes obligé de passer par du FTP. Vous êtes obligé d'activer cette fonctionnalité. Mais ça peut être pratique pour vous aussi, si vous avez une médiathèque, de vouloir utiliser le FTP pour transférer les données, etc., sans sortir la clé ou éteindre le boîtier, quoi. Donc vous choisissez votre l'option 1, vous donnez un mot de passe, vous ne l'oubliez pas surtout. Et après, vous confirmez le mot de passe et ça roule. On passe à l'étape suivante. Et donc après ça, je vais pouvoir me connecter au boîtier en SSH, route@192.168.1.1, et vous mettez votre mot de passe. D'accord ? Est-ce que ça a entré ? Voilà. Bonjour. Deuxième étape. Donc là, on a changé le firmware. Deuxième étape, maintenant, on va s'occuper de l'interface, vraiment de la library box. D'accord ? Alors, la library box, c'est la version anglaise, et il y a un groupe d'utilisateurs français qui a créé un site qui s'appelle Bibliobox. Donc vous pouvez aller, vous tapez Bibliobox sur Google ou sur Internet, vous allez tomber sur ce site-là, et eux, ils ont francisé des fichiers déjà. Donc, l'interface... maintenant, à partir de maintenant, tout se fait sur la clé USB. Hein. Donc, il y en a qui sont connectés dessus ou pas ? Non ? Oui ? Il y en a qui sont connectés. Donc, sur la clé USB, il y a différents types. Alors, vous le voyez pas sur la clé USB parce qu'en fait, ce que vous le voyez sur la clé USB, c'est le dossier shared, c'est le dossier de partage. Ça, c'est important. Hein. Vous allez avoir plusieurs. Si je vous montre, attendez, je vais vous montrer ça. Dans téléchargement. Dans Library Box, Canopy Box 19. Voilà. Une fois que vous avez... Ça, c'est ma clé USB. Hein, d'accord ? J'ai une copie, parce que ça m'évite de... Je peux la dupliquer comme ça beaucoup de fois. Je peux faire plein de clés. Donc, en fait, voilà ce qui s'installe sur votre clé USB. Donc, surtout, vous n'effacez pas tout ça. D'accord ? Vous pouvez toujours utiliser l'espace de stockage de la clé USB. En dehors de ça, vous pouvez mettre un fil, n'importe, ça se verra pas. Depuis la bibliobox, library box. Pour placer quelque chose, il faut aller à l'intérieur, et c'est ce dossier-là, shared, qui va contenir les ressources. Donc, j'ai créé des dossiers, d'accord? Et ces dossiers, je les ai ensuite mis dans l'index HTML pour configurer la page d'accueil. Ok? Donc, là-dedans, je mets ce que je veux. Là, j'ai même un site embarqué. Pour ceux qui étaient tout à l'heure à la présentation de Scénarii, voilà, je peux mettre des vidéos, etc., etc., etc. D'accord ? Et tout ça va être visible ensuite. Je réduis ça. Voilà. Alors j'ai un chat que je peux activer ou désactiver. Je peux aussi, donc le chat il est anonyme, hein. J'ai aussi un moyen de savoir ce qui a été téléchargé depuis mon boîtier, c'est intéressant. Quand les gens se connectent, qu'est-ce qu'ils récupèrent de mon boîtier, qu'est-ce qu'ils déposent aussi, parce qu'il y a le téléversement que je peux activer ou pas. Donc moi j'ai fait deux versions pour les enseignants. J'ai fait une version collège, j'ai fait une version bibliobox, celle que vous voyez là actuellement. Et donc la page d'accueil, donc en fait j'ai mis dedans les dossiers, déjà les fichiers tout prêts. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est ajouter, modifier le 1, le 2, les fichiers about, index, stats et upload, mettre les versions françaises. C'est déjà tout prêt, vous allez sur le site de Bibliobox et les fichiers sont tout prêts. Après, vous pouvez les modifier, vous les éditez avec un éditeur de texte et vous modifiez ce que vous voulez. C'est franchement, moi je suis pas du tout programmeur ou... moi je suis utilisateur, je cherche des solutions pratiques pour que les enseignants puissent utiliser le numérique, et c'est quand même assez simple une fois que on a bien lu le tutoriel sur les différents sites. Je continue. Donc le dossier téléchargé, les quatre fichiers compressés, vous pouvez les récupérer. Alors faites attention aussi, il faut souvent rafraîchir sur Firefox 4-5 fois la page pour que apparaissent vos modifications. Donc, autre chose, vous ne sortez pas la clé USB. Ne sortez pas la clé USB avec le boîtier sous tension. D'accord ? Débranchez le boîtier. Il n'y a pas de bouton, hein. Vous débranchez le boîtier et à partir de ce moment-là, vous sortez la clé USB et vous allez travailler sur les fichiers. D'accord. Est-ce que ça va, ça? Pareil, hein, vous remettez d'abord la clé USB, après vous mettez sous tension. De toute façon, ça marchera pas, hein, si vous mettez la clé USB après avoir mis sous tension, parce que tout simplement, toute l'interface, elle est sur la clé USB. Vous pouvez ensuite dupliquer la clé USB. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez préparé une première clé USB, vous pouvez, si vous êtes 4 ou 5 à vouloir utiliser la Bibliobox, vous dupliquez le contenu de la clé USB, et comme ça, chacun peut avoir sa clé USB et faire les modifs qu'il veut, sans changer le nom des dossiers, puisque les dossiers, eux, apparaissent sur la page index.html. Est-ce que ça, je suis assez clair là, ou, ouais. Je continue. C'est toujours pareil. Alors maintenant pour la page index.html, d'accord. Donc là aussi je l'ai expliqué. Hein, en fait, vous avez la référence au dossier qui envoie sur le nom d'affichage dans la page d'accueil. La page d'accueil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'affichage lorsque vous connectez sur mon boîtier. Donc vous pouvez modifier le texte et modifier le dossier. À l'intérieur, vous pouvez remettre des dossiers, vous modifiez ça comme vous voulez. Après, vous l'enregistrez. Alors faites attention quand même à utiliser un éditeur de texte qui ne mette pas des trucs un peu bizarres dedans. Okay. Vous pouvez modifier le texte de la page d'accueil. Là, moi, j'ai mis « Bienvenue sur la Bibliobox du canopé ». Vous pouvez mettre « Matbox », vous pouvez mettre « SVT Box », enfin, ou ce que vous voulez, hein, votre association, etc. Et après, vous replacez ce fichier-là à sa place dans le dossier de la Bibliobox. Et vous vérifiez vos modifications. Alors, vous pouvez rajouter des onglets supplémentaires, simplement en rajoutant une ligne de plus. Vous pouvez supprimer des onglets, etc. Vous pouvez masquer le téléversement si ça vous intéresse pas que les gens aillent placer des choses dans un dossier. Moi, ce que j'ai fait, si vous ne mettez rien, le téléversement va se mettre n'importe où. C'est-à-dire que la personne va choisir l'endroit où va se faire le téléversement. Moi, pour que ça soit propre, j'ai créé un dossier de téléversement. Et tout va dans le dossier de téléversement. C'est pratique. Vous avez 25 élèves. Ils vous rendent un document, et ben tout va dans le téléversement, ça va pas se balader dans le dossier de 6e, 5e, etc. Donc ça, c'est à vous de gérer ça, quoi. Mais c'est faisable. De toute façon, quand vous avez le bazar sur votre boîtier, vous allez vite faire trouver la solution. Hein. Voilà. Alors, moi, je l'ai configuré par défaut Library Box Free Content, mais on peut changer le SSID. Ça, c'est pareil. Hein. Il y a un fichier là. Si je vais ici, je sors. Donc, je suis sur mon. C'est dans config, je crois. Voilà, vous avez le fichier SSID là. Donc tout se fait sur la clé USB. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terminal, etc. Là, ça a sérieusement évolué par rapport aux premières box où il a fallu chercher avec Vi, chercher. Moi, quand j'ai vu Vi la première fois, j'ai dit, c'est quoi ce bins? Enfin, on y arrive, hein, mais c'est vraiment fait quand même pour des gens qui n'ont pas peur du terminal. Alors que là, bon, c'est quand même ça ouvre d'autres possibilités et ça le met accessible. On va dire quand même à des gens qui maîtrisent un minimum le net et un ordi. Voilà, donc voilà le SSID, c'est ce que je vous ai dit. Ça va jusqu'à maintenant? Le SSID, vous pouvez le changer autant de fois. Ah ouais, par contre, un truc qui ne marche pas ou qui marche mal, c'est les accents. Hein, les accents, évitez-les. Et les espaces aussi. Moi, je mets plein d'espaces et puis ça passe quand même assez bien, quoi. Et les noms trop longs aussi. Voilà, ouais, je l'ai mis là. Ouais. Alors, activer le téléversement. Donc, téléversement, d'origine, il est désactivé puisque l'idée derrière de la bibliobox, c'est de mettre dans une médiathèque et que les gens récupèrent des choses, mais ne déposent pas. Mais si vous avez besoin d'activer le téléversement, eh bien, vous allez cette fois-ci devoir utiliser Vi. Hein, donc vous vous connectez, pareil, avec le terminal en SSH, d'accord, et vous allez éditer donc un fichier ici Vi Opt PirateBox, et puis vous allez simplement faire les modifs comme c'est indiqué dans le procédé, dans le tutoriel. Il faut activer le Droupi, et puis ensuite il y a une autre manip à faire, mais c'est très simple. Par contre, après, il faut relancer le boîtier pour tenir compte des modifs. Ça veut dire l'éteindre et le relancer. Alors, vous allez pouvoir reboot ou le faire à la main en débranchant électriquement votre boîtier. Voilà. Là, je vous montre ce que j'ai fait au niveau du folder shared. Normalement, ça s'arrête là, à shared. Moi, j'ai mis upload, j'ai créé un dossier de manière à ce que tout ce que vous balancez sur le... Là, si vous êtes en train de me téléverser quelque chose sur mon boîtier, ça va aller dans shared, dans upload, d'accord? Ça sera rangé au bon endroit, et moi, demain, si je fais le ménage, je vide simplement ce dossier-là. Vous voyez, c'est pratique, quoi. Alors, c'est rigolo, hein. Quand je prends le train, par exemple, je lance dans le train, puis des fois, je me retrouve avec des choses assez bizarres sur la clé. C'est rigolo. Alors, il y en a qui sont sous iOS, où il y a des allergiques ou pas? Non, ça va? Hein? Non, c'est important parce que, bon, vous allez vous retrouver avec des gens qui ont de l'Android. Android, il n'y a aucun souci. Firefox OS, ça va marcher aussi. Windows aussi. Et puis, avec l'iPad, ça ne le fait pas parce que, tout simplement, il n'y a pas de gestionnaire de fichiers visible. D'accord, sauf si vous le craquez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est faisable en activant le FTP, en utilisant une application comme Documents by Riddle, qui est en fait on recrée le gestionnaire de fichiers, quoi. c'est assez fou. Donc là, pareil, vous l'activez sur la bibliobox, et puis ça va le faire. Voilà. Et c'est pareil, c'est très simple, hein, pour activer le FTP, c'est une page qui est toute prête, vous sélectionnez le numéro qui vous intéresse, et ici c'est le 6, j'ai juste à mettre un mot de passe, d'accord? Et à partir de ce moment-là, eh bien mon FTP est actif, et je vais pouvoir téléverser depuis, même en mode FTP, ça peut être pratique aussi pour lorsque j'ai une grande quantité de documents, donc voilà, sur l'iPad... Je vais pas non plus rentrer dans les détails, hein, ça le fait, quoi. Alors c'est important, c'est à faire une seule fois le FTP en début d'année ou avec des personnes, ils paramètrent leur tablette, et puis comme c'est toujours la même adresse, et ben après ça fonctionne. Il n'y a pas de modification à faire. Alors si vous voulez des références, donc Bibliobox. D'accord. Donc bibliobox.net pour trouver la version française. Sinon, c'est librarybox et vous trouvez, alors si vous lisez parlez anglais, il n'y a pas de souci, il y a de l'entraide. Moi, j'ai posé pas mal de questions par rapport à ce problème d'iPad. Par contre, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une Raspberry Pi, d'accord ? Ce n'est pas un mini ordinateur, ok ? Si vous voulez vraiment monter un Moodle ou un Home Cloud, etc., c'est pas assez puissant pour ça, d'accord ? C'est vraiment très pratique pour. J'ai une clé USB, je mets mes ressources dessus, je la branche, je la lance, j'ai même pas besoin de l'ordinateur et on se connecte dessus, d'accord ? Des questions ? Non, tu n'as pas. En fait, non, t'as pas les noms, t'as rien, t'as pas de. C'est simplement. Non. En fait, ce que tu as l'historique. Pardon ? Non, t'as l'historique simplement des dépôts. D'accord ? C'est-à-dire que tu as tel fichier qui a été mis, le deuxième, etc. Mais tu sais pas qui c'est. Il y a aucune identification derrière. C'est exactement. De toute façon, Mathias, il développe pour la Pirate Box, il développe aussi pour, la Library Box. Hein. C'est le même gars qui est derrière, en fait. Donc, non, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce qui est intéressant, c'est de voir le téléchargement, la popularité du téléchargement. Si, par exemple, tu mets une cinquantaine de livres dessus, d'accord ? Eh ben, tu peux voir, ce bouquin-là, il a été téléchargé 25 fois. Et ça peut être un indicateur pour toi pour ensuite sélectionner d'autres ouvrages en fonction de la clientèle que tu as. Ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Calibre pour la gestion de bibliothèques. Eh bien, tu peux interfacer, donc tu peux faire un export de Calibre avec l'interface web et l'injecter directement sur la BiblioBox de manière à avoir la même interface. De présentation, des différents ouvrages, c'est très propre. Hein. Mais bon, voilà.
En fait, moi, ce que je voyais comme principe même, normalement, de la Pirate Box, c'est de pouvoir contourner des problématiques dues à des systèmes de censure, etc. Et ce qui fait qu'en fait, appliquer ce système-là au monde de l'éducation, je ne vois pas trop l'intérêt.
Si, je te donne un exemple très simple. Très simple. YouTube est bloqué. Dans les collèges, d'accord ? Donc ton chef d'établissement, il doit faire la demande au DSI, mais c'est lui qui prend la responsabilité. Il y en a, ils veulent pas. Donc que fait le prof ? Il télécharge la vidéo, il la met sur une clé USB, il va en cours, il projette la vidéo. Là, tu mets ta vidéo sur la clé USB, et tout le monde se connecte sur la vidéo, et il récupère la vidéo comme ça. Enfin, il la visualise. Donc ça te permet, parce que si tu mets ça sur le tu peux le faire sur le serveur pédagogique, sauf qu'il te faut l'accès au serveur pédagogique. Tu as par exemple dans un établissement, tu vas avoir 15 classes avec une prise RJ45 et un accès au serveur pédagogique, et tu vas avoir deux classes, parce que c'est les dernières tout au fond là-bas,
puis qu'il y a plus de budget, il n'y aura rien.
En fait, c'est plus un problème administratif qu'un problème, c'est pas ce à quoi normalement
s'attaque
la Pirate Box,
quand même,
en fait. C'est juste ça que.
Ouais, c'est-à-dire, si tu veux, en fait, au départ, la problématique n'était pas liée au niveau, tu sais, les collègues, ils s'en fichent de savoir la philosophie qui est derrière le boîtier. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre à disposition les ressources aux élèves, lorsqu'il n'y a pas de Wi-Fi. Le serveur pédagogique ne fonctionne pas. Et moi, encore jeudi, il y a une collègue qui vient, une prof de SVT, mais j'en ai ras-le-bol. Sur les deux bahuts, je me retrouve dans les salles où j'ai pratiquement zéro Wi-Fi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort son boîtier, elle ne fonctionne plus qu'avec ça. Et comme ça, elle est tranquille. Parce que si tu veux, il faut quand même qu'elle fasse court. Et voilà. Mais pour les sorties, c'est intéressant aussi, tu vois. Tu vas sur le terrain, dans un musée. L'autre jour, il y a une ferme écologique qui m'a contacté parce qu'ils veulent faire un parcours nature dans leur ferme et ils voudraient que les gamins ou que les gens aient une tablette avec les ressources dessus et en fonction des endroits, ils puissent accéder à ces ressources. Bon, alors j'arrive, vous avez des solutions, hein. Vous avez la SD card, vous mettez tout dessus. Ah ben non, on ne veut pas faire ça. On voudrait planquer un boîtier de manière à ce que les gens arrivent à tel endroit et puissent s'y connecter. Bon, j'aurais dit, voilà, regardez le tutoriel, si ça vous va ou pas. Donc, tu vois, il y a des tas d'applications qui sont complètement détournées de la philosophie de départ. Voilà.
Ça marche sur ce petit TP-Link là, ça marche aussi sur la version portable avec la batterie.
Ouais.
C'est là, c'est...
Tu as en fait le modèle, c'est le MR.
Ouais, mais j'ai l'autre modèle en fait.
40 avec la batterie intégrée.
À l'intérieur.
Ouais. Si tu veux, moi je en fait les collègues, il y en a qui l'ont acheté, ça marche pareil. De toute façon, c'est le même.
C'est la
même chose. Et t'as même un autre modèle qui est plus gros. Ouais. Il faut que tu ailles sur le site de LibraryBox, ils ont les packages de prêt pour différents modèles.
Parce qu'en fait, moi j'utilise l'autre boîtier pour faire communiquer de une caméra.
Ouais.
Et donc il y a déjà OpenVRT dessus, et il y a déjà un système en fait. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs systèmes, ou est-ce qu'il peut y avoir que VideoBox, PiratBox?
Ah non, après si tu veux le code il est disponible, donc tu en fais ce que tu veux. Je veux dire là-dessus, il y a des gars qui ont fait.
Il y a déjà par défaut là, le mien en fait il se connecte à une caméra. On met pas une clé USB, on branche une caméra, on démarre le routeur et on se connecte au routeur comme là, sauf qu'on a accès à la caméra.
Et
dans un mode particulier, est-ce qu'on peut mixer le mode, parce que là il est pas en mode. Moi, il y a trois positions, t'as montré trois positions au départ.
Ouais.
Et moi, il est sur une autre position, il est en mode.
Par contre, ce que je sais, c'est que par exemple, t'as des enseignants, ils utilisent simplement la bande Wi-Fi avec ça. C'est-à-dire que si tu as des applications qui communiquent en maths, par exemple, ils ont des applications où les élèves peuvent travailler à deux sur un document. D'accord.
Ouais.
Et bien, ils passent par la VideoBox. Et d'abord les gamins ils vont pas sur internet et ils se baladent et faire n'importe quoi. Et puis deuxièmement, ils ont un réseau et puis ils l'utilisent carrément pour échanger entre tablettes ou ordi tablette. Autre question? Ah oui, ce que je pouvais, vas-y. Écoute, en gros, si ça dépend du fichier et en fait une quinzaine classique, un 15-20. Mais alors vraiment là ça risque de saturer. Non, tu mets en fait ce que font les profs, si tu veux, tu sais, ça démarre jamais, une classe ça démarre jamais en même temps. Donc t'as celui qui va sortir le cahier, t'as machin, etc. Et pour l'instant t'en as déjà qui ont commencé à télécharger. Quand c'est une vidéo par exemple un peu conséquente, ils disent voilà, vous les 5 là, vous commencez déjà avec la vidéo et puis après voilà, ils font tourner. Mais une quinzaine ça marche. Et après je te dis, ça dépend de la taille de ton fichier. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on peut les mécher. D'accord. C'est prévu, au départ, vous allez avoir un boîtier maître et des boîtiers esclaves. Donc si par exemple vous avez des ressources à placer, les mêmes ressources sur 3-4 boîtiers, eh bien je peux, par un signal en fait, tous les 7 minutes, je crois que c'est prévu, il va vérifier, les esclaves vont vérifier le boîtier maître et vont faire la synchro. Donc c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir plusieurs boîtiers comme ça qui s'enchaînent.
Par exemple, la clé USB, vous avez dit, elle a combien de...
Là, j'ai une 16 gigas dessus. Et franchement, tu peux y aller. Tu peux... Enfin, après, je veux dire, ça dépend vraiment de ce que tu mets dessus. Quoi. Tu peux monter à 32, je crois. Et après, ils sont en train de voir 64 peut-être. Mais après, ça devient pas un peu compliqué. Mais déjà, c'est pas mal. À la limite, tu vois, tu prépares des clés en fonction de ce que tu veux faire. C'est juste à copier. Tu copies le dossier VideoBox plus les quelques fichiers, tu les mets sur des clés et tu te prépares des clés comme ça. Moi, j'en ai plusieurs. Oui.
Juste une question, est-ce que pas le système dont tu parlais d'APRA avec les esclaves? C'est du mesh
Ouais, c'est du mesh. C'est ça. Ouais,
ça rassemble pas toutes les clés dans un container commun,
non.
C'est juste de la synchro.
Ouais, tu synchronises. En fait, l'esclave va se connecter au maître, il va vérifier les dossiers, les machins, les fichiers, ah tiens, il y a un nouveau truc, et je le récupère. Voilà. Ça te permet en fait de couvrir beaucoup plus d'espace quand tu es dans un, par exemple, le psy, ça te permet de dupliquer les ressources sans sortir la clé et voilà. Ouais.
Vous n'avez pas le droit de fournir un fichier avec les langues françaises ou pas fournies.
Alors, la prochaine version, si tu veux, tu as une, elle était prévue pour ce mois-ci. Tu auras en fait les fichiers de langue déjà dedans. D'accord. Et là, ça va quand même encore simplifier plus. Et l'interface là que je vous ai montré, les dossiers sont au départ l'interface des dossiers, elle est pas très belle. Et, la, et celle que j'ai mise, elle a déjà une police de caractère un peu particulière, etc. Donc ça va quand même un peu plus loin. Et bon, voilà, c'est des petites améliorations de la communauté. Oui.
Est-ce qu'on parle des usages bizarres, justement, quand on est dans un train, par exemple? Qu'est-ce qu'ils font, les gens dessus? Ça libère des énergies folles d'avoir...
Non, tu te retrouves avec des fichiers boulot, par exemple. Parce qu'il s'est trompé. Non, mais...
C'est dit que
les gens se connectent dessus, d'accord? Ils voient l'interface. Il dépose une image, il dépose un fichier, tu vois, ou il récupère des trucs. Bon, moi, ça ne me pose pas de soucis, parce que, je veux dire, ça va nulle part, quoi. Hein? Mais c'est le même principe que les clés qui sont planquées dans les... cimentées dans les murs, tu vas connecter dessus. Les gens déposent des trucs. Par contre, tu vois, dans un établissement, tu ne peux pas le laisser tourner en permanence. Hein? Moi, les collègues, je leur dis, hein, parce que les élèves peuvent faire transiter des fichiers, des vidéos, etc. dessus, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le prof, il rentre, il branche le boîtier, les élèves se connectent dessus, dès qu'ils n'en ont plus besoin, ils le débranchent, quoi. En gros, t'as des profs, ils déposent, ils leur donnent un document en début de cours, ça prend 10-15 minutes pour récupérer le fichier, et après, c'est terminé, tu vois. C'est vraiment... Bon, après, par contre, faut pas le laisser brancher en permanence. Quand on est responsable des élèves, après les adultes, ça, c'est pas un souci, tu le laisses tourner, bon, ça va nulle part. Voilà. Autre question ? Oui ?
Vous dites qu'il y a le USB, mais un disque dur, c'est possible aussi ?
Non.
Pourquoi ?
Non, à cause de l'alimentation.
Mais si le faut alimenter,
c'est ça ne marche pas. Disons, enfin, là, il faut que tu vois sur le forum.
Tu mets un rêve, en fait. Tu mets un rêve USB,
ouais.
Et là, tu peux le connecter en disque.
Ouais, tu vois, t'as la réponse. Moi, je l'ai utilisé avec une Raspberry Pi derrière aussi, tu vois. J'ai changé l'interface de la connexion. Je l'ai pas fait là. En fait, j'ai rajouté un onglet Moodle. D'accord? Et donc, lorsque les élèves cliquent sur Moodle, ils vont se retrouver sur la Raspberry Pi qui est derrière. Ça m'évite, en fait, d'avoir, tu vois, qu'ils aient à gérer plusieurs interfaces. Qui rentrent toujours par la même, la Bibliodox, ils la connaissent. D'accord? Ils rentrent là-dedans, et derrière, il y a le Moodle où il y a ma Raspberry Pi, et ils vont pouvoir travailler, faire les QCM, etc., directement sur la Raspberry Pi. Et là, ça devient intéressant, il y a des choses à faire. Vous voyez, c'est des usages détournés. Mais j'aurais très bien pu installer directement sur la Raspberry Pi la Bibliobox, puisque c'est déjà prêt, c'est prévu. La Pirate Box est prévue pour fonctionner sur Raspberry Pi.
Tu pourrais installer un serveur
synchrone
sur ta
page. Ça, je sais pas. Ça, toi, tu me poses une colle. Moi, ce que j'ai fait, si tu veux, j'ai pour l'instant, au niveau de la Raspberry Pi, j'ai exploré le OnCloud, j'ai exploré le Moodle, ça marche, mais il faut pas trop de connexions simultanées. Tu peux pas avoir 25 gamins, une classe de 30 connectés sur la Raspberry Pi en même temps. Déjà, t'as un problème de Wi-Fi, mais c'est faisable. D'autres questions?
Est-ce que tu allais voir le stand d'Innovost?
Eh non, parce que en fait, depuis 13h, je suis conf.
Je t'invite à aller le voir, parce que c'est un projet en fait axé sur le deux hébergements.
Ouais.
Et en fait, si tu veux, leur principe, c'est d'intégrer dans une seule distribution, OnCloud,
ouais.
L'auto-hébergement des emails. Un serveur de chat type Jabber et l'intégration est vraiment simple. Et pour installer les différents serveurs, c'est un clic sur une interface web, c'est très bien foutu. Ils sont une image pour Raspberry Pi qui tourne, il y a une petite astuce, une petite
parce que si tu veux, toutes ces distributions-là, lorsque tu vas faire un DSI qui est un ancien du KGB avec des outils de la CIA, tu fais rien. Tu vois, t'es bloqué administrativement et donc les collègues se tournent vers des solutions Raspberry Pi, petit serveur, Piratebox, Bibliobox,
pour en fait contourner le problème. C'est ça, clair.
Voilà. Les bibliothèques, c'est utilisé.
Alors, si tu veux, il faut savoir que la Pirate Box, elle est arrivée par Lille. D'accord ? Ça a commencé à Lille. Et je sais qu'il y a des cafés qui l'utilisent. Les bibliothèques, alors moi j'en ai sur la Corrèze, donc des CDI, des centres de documentation qui l'utilisent parce que le Wi-Fi marche mal, parce que pour X raisons, ils l'utilisent effectivement dans leur bibliothèque. Le gros souci qu'on a actuellement, c'est les ressources numériques. Enfin, il n'y a pas assez de ressources au niveau des ressources abordables, je veux dire, à mettre à disposition des élèves. Et donc, voilà, aussi longtemps qu'on a ce problème-là, on se retrouve à très peu d'usage dans les, moi je pense, dans les médiathèques. Mais c'est en train de changer, hein, ça évolue.
Les DSI, vous n'avez pas de bloquer un peu ?
Alors, le DSI, si tu veux, nous, on a eu affaire au DSI de la Limousin. Quand il a vu ça, parce que ça fait quand même, au début, on l'appelait ça les Pirabox, hein, donc on a changé le nom. Mais c'est quoi ces boîtiers? Alors bon, moi j'ai quand même eu un chef d'établissement qui m'a dit que à cause de la Pirate Box, le réseau marchait mal dans son établissement et que c'était la DSI qui lui avait dit. D'accord? Donc ça fait réunion, machin, etc. Et quand on leur a bien expliqué ce que c'était, si tu veux, ils n'ont pas de solution à proposer. Ils n'ont pas d'autre alternative, si tu veux, parce que ça a des coûts énormes. Câbler un établissement, rajouter les salles, etc. Ça coûte trop cher. Donc, maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs, quoi. Alors, il y a encore, la semaine dernière, un chef d'établissement qui est fraîchement nommé dans le département, qui a appelé le DAZEN en disant, mais je comprends pas, là, il y a des choses bizarres qui se passent dans mon établissement, il y a des pirate box, ça doit être dangereux, ça, non? Moi, comment je gère ça? Parce que, en fait, le terme pirate box a des connotations négatives, quoi. Donc, une fois que c'est expliqué, même le DAZEN est au courant de ce qui se passe. Donc, il leur a expliqué que pour l'instant, c'est la solution qui fonctionne. Et on en a, je dis, au moins une soixantaine. On a un établissement, l'internet fonctionne, mais les profs ne veulent pas que les élèves aillent sur le net. Parce que ça part en live. Donc, c'est des collégiens, hein. C'est 4e, 3e, c'est chaud. Donc, alors, si tu veux, bon, je te prends un exemple. L'année dernière, j'ai fait de la formation à l'île Maurice sur Open Sans Corée, d'accord. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai fait de la formation sur la production de ressources avec Scénarii et Bibliobox. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 24 000 tablettes qui arrivaient sur l'île et qui ne savaient pas comment gérer ça et qui n'ont pas de Wi-Fi. Tu vois, donc qu'est-ce que, bah, quand t'as de l'Android et t'as ça, tu mets des APK là-dessus, d'accord, tu mets tes 700 gigas d'APK, tu vas dans un collège, tu vas dans un établissement, tu lances ça, les tablettes se connectent dessus, récupères les APK, et tu fais l'install, et ça je l'ai fait, hein, j'ai fait 14 tablettes Android, 700 mégas d'APK, depuis la Pirate Box, en 45 minutes c'est fait. Tu prends 15 iPads, tu mets 700 mégas, tu veux mettre 700 mégas dessus, tu prends, allez, 4 jours, si tout se passe bien. Parce que le serveur, t'as des va-et-vient, t'as des chutes de débit, enfin, etc. Donc, il y a des choses à faire. Actuellement, en Mali, au Sénégal, quand tu veux envoyer, par exemple, des ressources, je prends l'exemple, le tutoriel Open Sans Corée, il est fait sous Scénarii, il est livré sur ça, version papier, puis t'as d'autres ressources, et ça part dans la brousse. Ça marche. Tu peux, bon là j'ai mis un boîtier comme ça, mais tu peux avoir un petit panneau solaire, hein, ça fonctionne. D'accord, donc voilà. Ouais. Oui.
Pourquoi t'as mis combien de codes et un peu
là, j'en sais rien. J'en sais rien, tu
veux... Le dit. Alors en fait, c'est, je crois que c'est un éditeur Wi-Fi type L. Du coup, ça doit être genre 54 mégabits longtemps, descendant. Mais en fait, il faut considérer que c'est un Wi-Fi local en fait.
Voilà.
T'as même pas la contrainte de la DSL où tu vas être limité au boulot, etc. Faut considérer que c'est un réseau local. C'est un éditeur de réseau local.
Franchement, ça marche bien, quoi. Tu files, moi j'ai fait une formation, il y avait 250 données de ressources à télécharger, on fait la pause, t'as 25 personnes, d'accord, tu lances le téléchargement, tu
fais la pause, un quart d'heure après, franchement, c'était fait. Ça marche. On va tester. De toute façon, l'investissement, il est de quoi, 30 euros avec la clé USB. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est quand même pas... C'est pas des pensées, non.
En fait, je... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'histoire de la gueule des excusez-moi, j'ai pas remis, de
la
machine,
la Bigobox.
Ouais, la Bigobox. En genre de réseau SSH, je comprends pas bien tout, mais la question, c'est de savoir si j'en ai une chez moi, et quelques voisins voulant en mettre une, etc. Est-ce que ça pourrait faire un très très grand réseau
Tu peux le faire, ouais. Tu peux le mèche. Ouais. C'est le principe, hein, d'ailleurs. Tu les mèches.
Et il n'y a pas de limite à...
Peut-être tu poses une colle, hein, mais bon, après, il faut que tu poses la question sur le forum. Tu vas sur le forum de Library Box, les gars, ils te répondent. Franchement, c'est top. En plus, avec le décalage horaire, ça va vite.
Non, c'est bon. Moi,
je vous dis, hein, moi, je suis pas un bidouilleur, hein, je suis un usager. Et voilà, quoi. Donc,
c'est un peu triste que ce soit les profs qui mettent ce genre d'alternative et pas plus haut.
Voilà.
Ça, dans l'éducation nationale, c'est
possible. Il n'y a pas que dans l'éducation nationale. Si tu veux, moi je trouve que déjà que les gens arrivent à se trouver des solutions, je trouve ça pas mal, tu vois. On a un établissement, par exemple, il a monté un prof, il a monté deux serveurs sous 100 watts. D'accord. Et il les gère. Et voilà. Bon, après, si tu veux, il faut pas oublier non plus que tu as des problèmes de sécurité. On a affaire à des personnes qui sont mineures et que tu n'as pas. Tu as les règles. Enfin, ça, c'est clair.
Mais, qui a financé alors cette box?
Ah ben, les box, alors tu as des collèges qui les ont achetés. D'accord. Sur les crédits de. Excusez-moi. Sur les crédits pédagogiques. Hein. Tu as des collègues qui les ont achetés. Moi, la première, je l'ai achetée. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, moi, je travaille dans un centre de documentation pédagogique, mais ça n'avance pas vite non plus, hein, au niveau de la réflexion. Donc, moi, j'ai acheté la première. Quand ils ont vu l'intérêt du truc, tu arrives en réunion, d'accord, tu es dans un établissement, il n'y a pas de Wi-Fi. On ne peut pas se connecter parce que tu es de l'extérieur, tu arrives avec ça. Moi, je vais dans un collège, les ressources sont là-dessus. Il y a même des profs qui ne se déplacent pas, qui sont dans la salle à côté, ils se connectent dessus, ils récupèrent ce qui les intéresse. Et donc, tu as une autonomie au niveau de la mise à disposition des ressources. Ça, c'est quelque chose qui. Maintenant, ils ont compris, hein, ça marche. Il y a des DSI qui téléphonent, qui m'appellent de l'extérieur. Hein, j'étais à Poitiers, le DSI m'a appelé. Lui, il avait compris l'intérêt du truc. C'est 30 euros, hein, quand même.
Mais juste par rapport à la question qui est posée, comment est-ce qu'il est possible de chaîner les différents boîtiers si la radresse sont en dur et qu'on ne peut pas les changer? Comme si il y avait deux personnes qui s'appelaient Paul, je disais Paul, ça va, il y a des deux en même temps.
Alors écoute, je crois qu'il y a une histoire de SSID, je crois. Tu donnes pas le même nom. Mais écoute, le tuto, il est, tu vas sur le site de. Moi, je l'ai pas fait pour l'instant. Je vois pas, enfin, j'en ai pas l'intérêt, tu vois. Parce que j'ai la mienne, mon collègue, il y en a une, il n'a pas la même chose dessus. Donc, mais tu vas sur le site de Library Box, tu vas avoir l'explication de comment on mèche les boîtiers. Hein. Et ça fonctionne parce que les docs sont pas forcément des figures. Donc, ça doit être simple à faire. Bon, moi, je vous remercie de votre attention.